Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de ce dernier rendez-vous de la saison de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. On va avoir le plaisir de vous consacrer une spéciale du film Il n'y a pas de réseau qui sortira le 6 août prochain au cinéma. À cette occasion, Édouard Pluvieux, le réalisateur, sera accompagné de Maxime Gasteuil et Gérard Jugnot, à ne pas manquer, évidemment, en fin d'émission. Et puis dans une poignée de secondes, on va parler livre pour vos traités. Le tout nouveau livre de Philippe Besson est sorti. Philippe sera avec nous dans une poignée de secondes. Et nos coups de cœur télé consacrés aux séries quotidiennes avec cette semaine Marie Fèvre, Alex Dou et Abdella Boujalal pour la série Tout pour la lumière. Stéphane Blancafort viendra également nous parler pour Ici tout commence. Et puis on aura le plaisir de recevoir également Jean-Pierre Savelli, l'inoubliable Peter de Peter et Sloan, qui viendra nous parler de ses spectacles qui vont être montés à l'occasion d'un hommage à Michel Legrand. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer pour cette dernière de la saison. Alors c'est parti, on démarre tout de suite avec Philippe Besson.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, on va parler livre pour vos traités. C'est peut-être le livre à ne pas manquer, justement. C'est celui de Philippe Besson qui est sorti depuis début janvier. Vous parlez de Mon fils aux éditions Julliard. Philippe est avec nous. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On est très heureux de vous retrouver après Arrête avec tes mensonges. C'est un nouveau roman et je pense que justement pendant cette période de pause scolaire qui s'annonce là, pendant ces deux mois d'été, c'est peut-être le livre pour les parents à lire.
Oui, en tout cas, je l'ai conçu comme une espèce de cri d'alarme un peu sur ce qui peut arriver parfois à quelques adolescents ou adolescentes dans les cours de récréation et dans les couloirs de collège ou de lycée, puisque c'est un livre qui est consacré à la thématique du harcèlement scolaire. Mais j'ai voulu le raconter du point de vue des parents. Comment des parents se retrouvent face à cette situation, comment ils découvrent que leur fils, en l'occurrence Hugo, qui a 14 ans dans le livre et qui est collégien à Saint-Nazaire, comment Hugo va être victime de harcèlement et comment ses parents vont le découvrir un peu à retardement et devoir gérer leur sidération, leur colère, leur culpabilité.
Ce livre va aider peut-être à montrer quelques signes aux parents qui vont le lire, par exemple, à essayer de détecter peut-être des petites choses qui peuvent se produire chez leur enfant aujourd'hui.
Oui, ça serait en tout cas formidable si c'était le cas, parce que le problème du harcèlement, c'est qu'il se développe à bas bruit. C'est-à-dire qu'en fait, le problème des enfants et des adolescents harcelés, c'est qu'ils se taisent, ils restent murés dans le silence, dans le mutisme. On sait d'ailleurs pourquoi, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont honte, parce qu'ils se sentent humiliés, parce qu'ils se disent que s'ils parlent, il y aura des représailles, parce que s'ils parlent, ils seront vécus comme des balances, etc. Donc ils se taisent. Dès lors, les indices sont extrêmement ténus, les signaux sont extrêmement faibles, mais il y en a. Il y en a, et c'est vrai que c'est aux parents d'essayer de les repérer, d'être dans cette espèce d'ultra et d'hypervigilance pour essayer de comprendre. Parce que si effectivement votre enfant a de bons résultats au collège ou au lycée et qu'il se met tout d'un coup subitement en avoir de beaucoup moins bons, ça peut être un signe que quelque chose dysfonctionne et ça peut être le harcèlement. Si effectivement votre enfant est d'humeur égale et que tout d'un coup il se met à être extrêmement agressif, c'est pas forcément le harcèlement, c'est peut-être juste parce qu'il vous déteste, hein. C'est une période qui s'appelle l'adolescence, mais ça peut être aussi parce qu'effectivement il est harcelé. S'il trouve tous les moyens possibles imaginables pour ne pas aller à l'école, au collège, au lycée, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, je suis pas bien. Là aussi, il faut se poser des questions. Et si surtout un jour il vous dit j'ai envie de changer d'établissement, là il faut comprendre qu'il y a un warning, qu'il y a des grosses lumières rouges qui doivent clignoter. Et donc oui, ce livre essaie de dire voilà, il y a comme ça quelques endroits, quelques pistes qu'il faut pas négliger pour essayer de repérer, parce que plus vite le harcèlement est repéré, plus facile il est de l'enrayer.
Philippe, dans Arrête avec tes mensonges, j'avais beaucoup de choses personnelles de vous. Vous êtes beaucoup raconté, en tout cas, dans ce livre. Est-ce que là, on va retrouver aussi quelques petites choses personnelles, quelques petites choses qui remontent, qui une espèce d'extériorisation aussi, peut-être, de vécu?
Oui, parce que d'abord, on ne peut pas écrire un livre en faisant abstraction de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a traversé, de ce qu'on a éprouvé. Ce livre est un roman, c'est une fiction. J'ai inventé cette histoire. Je l'ai voulu d'ailleurs comme une fiction et comme un roman d'amour, d'une certaine manière, comme le témoignage d'amour d'un père pour son fils. Mais en même temps, évidemment, il est empreint de ma réalité personnelle, ne serait-ce que parce que moi-même, quand j'avais 14 ans, j'ai été harcelé pendant des mois, enfin 18 mois au collège, en 4e et 3e, et que je m'en souviens comme d'une mortification, quelque chose d'absolument terrible, parce que ça avait commencé comme ça, par des insultes, des injures, des moqueries, et puis ça avait débordé, c'était devenu une sorte de harcèlement quotidien, de violence, de mise à l'écart, de bannissement, et je me souviens de ma peur, et je me souviens de ma honte. Donc c'est vrai que quand j'ai essayé de caractériser le personnage d'Hugo, le jeune collégien, je lui ai donné beaucoup des choses que moi j'ai connues et traversées à ce moment-là. Sauf qu'il y a une grande différence entre Hugo et moi, c'est que quand moi j'étais harcelé, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc ça s'arrêtait à 4h30 le soir, ça s'arrêtait le vendredi soir, ça s'arrêtait pendant les vacances. Il y avait des répits.
Ça ne s'arrête plus.
Voilà, il y avait des haltes et là ça ne s'arrête plus. C'est 24h sur 24, c'est 7 jours sur 7.
C'est ça qui est terrifiant.
Oui, bien sûr. C'est une notification sur le téléphone, c'est des Snapchat, des TikTok, etc., des vidéos balancées, des rumeurs qui se propagent. Le harcèlement devient un spectacle qui va générer des likes, on va se faire aimer, on va gagner de la popularité. En étant odieux et en étant...
Film même.
Bien sûr, en étant cruel avec les autres. Et ça ne s'arrête jamais. Donc c'est vrai que les enfants d'aujourd'hui vivent un enfer beaucoup plus grand que celui que nous avons vécu nous. Après, il reste toujours la peur, toujours la honte, toujours l'humiliation, toujours le désir d'échapper à. Et qu'est-ce qui se passe quand on a trop envie d'échapper à ?
Philippe, quand on a eu la chance d'avoir déjà deux romans exportés au cinéma, est-ce qu'en écrivant Hugo, en parlant de Hugo, vous rêviez déjà peut-être de le voir sur un écran ?
Ça serait évidemment un bonheur, parce que moi je crois que les livres sont des objets vivants et que c'est formidable quand ils ont d'autres vies, quand ils deviennent des films, quand ils deviennent des pièces de théâtre, quand ils sont publiés à l'étranger, etc. J'ai la chance d'être publié dans une trentaine de pays et je peux vous dire que tenir votre livre dans une langue qui n'est pas la vôtre, c'est un enchantement aussi. Et se dire que vous avez écrit un livre que vous croyez très franco-français et vous vous dites qu'il est lu aux États-Unis, en Allemagne, en Chine, en Corée ou je sais pas où, c'est assez curieux. Bon, et c'est pareil avec les films, c'est-à-dire que vous écrivez une histoire, puis un réalisateur s'en empare, ça a été le cas avec Chéreau pour son frère, avec Olivier Payon pour Arrêter tes mensonges. Et puis, il apporte son propre regard, son regard intime, subjectif, et il en fait autre chose, un objet cinématographique, une histoire qu'on raconte et qu'on pourra aller voir dans une salle obscure. J'espère que ça arrivera à vous parler de mon fils. Il y a aujourd'hui des demandes qui sont faites, donc on verra si elles aboutissent. Il faut toujours être prudent dans ce milieu du cinéma. Mais en tout cas, oui, ça serait en tout cas bien, mais ça serait au-delà de ça, de mon satisfaction personnelle. Oui, peut-être que ça serait utile de montrer cela aussi, de faire que on puisse, avec ce genre de film ou de livre, toucher le cœur. Parce qu'au fond, la question du harcèlement, elle est connue maintenant de nous tous. Notre intelligence, elle est sollicitée. Nous savons ce qu'il en est. On nous en parle. C'est nommé, désigné. Mais bizarrement, ça passe sur nous comme sur les ailes d'un canard. Et il faudrait toucher nos sentiments. Il faut viser le cœur pour réveiller les consciences.
Vous avez vécu, Philippe, une jeunesse peut-être aussi difficile que belle et émouvante dans ce qu'on a pu voir, encore une fois, dans Arrêter avec tes mensonges. Aujourd'hui, avec tout ce vécu, avec ces 25 romans en 25 ans, tout ce qui s'est passé depuis 2001, qu'est-ce que vous avez envie de dire au jeune Philippe, qui avait 18 ans à l'époque, si vous pouviez lui dire quelque chose aujourd'hui?
Tu vas faire quelque chose de tes souffrances. Tu verras, ça sera beau après. Parce que c'est vrai que le Philippe de 18 ans, il était à la fois très heureux et très malheureux. Très malheureux parce que le harcèlement, parce que les moqueries, parce que l'homophobie, parce que la clandestinité, parce que l'obligation de mentir, de se cacher, etc. Il était également très heureux parce que amoureux, parce que voilà, la vie allait bien et que ça s'annonçait bien, parce que mon père m'avait dit, tu verras, tu prendras l'ascenseur social, et c'est ce que j'ai fait. Mais en même temps, je savais aussi que m'attendaient quelques épreuves nouvelles. Nous entrions dans ces années 90 qui allaient me priver de beaucoup de mes amis. Et donc moi, j'ai eu une jeunesse, oui, marquée par la disparition et par la violence. Et donc, après, j'en ai fait des livres. J'ai fait des livres pour parler avec les disparus, j'ai fait des livres pour contrarier le silence. De cela, vécu quand j'avais 18, 20, 25 ans, le romancier de 40, 50 a fait autre chose, 50 ans a fait autre chose, oui.
Merci beaucoup, Philippe, en tout cas, d'avoir été avec nous. Vous parlez de mon fils, le livre, à lire cet été aux éditions Julliard. En tout cas, je vous le conseille vraiment. On va terminer par les projets. Est-ce que le prochain est déjà en route ?
Il est quasiment terminé, vous savez, moi j'ai besoin d'avoir toujours un livre à écrire, je suis quelqu'un de gourmand, Donc là je suis reparti dans une fiction pure et beaucoup plus solaire. J'avais envie peut-être après ce livre-là, qui était un livre dont je suis très fier, mais qui est un livre évidemment exigeant aussi.
Avec un sujet délicat.
J'avais envie de quelque chose de très solaire, donc un roman solaire et traversé de beaux sentiments. Donc je suis en train de le finir et donc il sera publié en janvier 2026, donc dans pas très longtemps, dans 6 mois maintenant.
Oui, c'est clair. On sera là pour en reparler.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Philippe.
Merci.
Et à bientôt.
À bientôt.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Il est temps de repartir à zéro, de ne faire qu'un avec soi, de ne plus vivre pour de faux. Si je me croisais, enfant ou ado, je me prendrais dans les bras, je dirais sois ton propre héros. Fais du bruit pour mieux entendre tes rêves. Les réponses que tu cherches se trouvent dans ton écho. Si tu tombes, sache que dès que tu te relèves, tes bleus traperont le ciel, alors regarde en haut. J'ai trompé le passé avec mon futur. J'ai pris un aller sans retour. J'ai brisé l'armure pour des promesses d'amour. J'ai changé la clé, cassé la serrure de mon cœur bien trop lourd. Je me suis transformé, les jamais en toujours. Dans ce nouveau jour. Dans ce nouveau jour. J'étais bloqué dans un tunnel sans fin, mais c'est dans le noir complet que la lumière fait son chemin. J'ai coulé pour trouver le sable fin. Les étoiles naissent en secret, le soleil revient chaque matin. Tu pars des mondes entiers sous tes paupières, mais tes yeux seront ta porte vers les lendemains. T'as touché le fond pour laver tes poussières, mais ce vide a fini par colorer ton destin. J'ai trompé le passé avec mon futur. J'ai pris un aller sans retour. J'ai brisé l'armure pour des promesses d'amour. J'ai changé la clé, cassé la serrure de mon cœur bien trop lourd. Je me suis transformé, les jamais en toujours. Dans ce nouveau jour. Dans ce nouveau jour. Dans ce nouveau jour. Dans ce nouveau jour.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et on continue à parler de tout pour la lumière cette semaine avec de nouveaux personnages qui nous ont rejoints. Une jeune fille que vous connaissez bien pour les aficionados d'Un si grand soleil. Elle a migré de série, mais pour le meilleur, parce que vous allez la voir chanter, danser, elle a tous les talents. Marie-Phève Scheuermann qui est avec nous, qui joue le rôle de Solène. Bonjour Marie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a Abdella Boujalal qui joue le rôle de Mohamed. Bonjour Abdella.
Bonjour.
Merci d'être là. Et puis on a Alex Doux qui joue Juliane aussi. Bonjour Alex.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, en tout cas tous les trois. On va revenir un peu sur vos parcours, mais surtout aussi sur votre arrivée dans cette série. Parce que c'est dingue, une aventure comme celle-ci, où on a une série où on peut mettre tous ses talents à profit, chanter, danser, jouer. C'est incroyable, Marie. C'est ça qui t'a excité justement, qui t'a donné envie de changer de série?
Alors, pas à changer de série, parce que je suis partie d'Un si grand soleil avant tout pour faire d'autres choses, voyager, me laisser un peu le temps de faire un peu ma vie. Et la série...
Du coup, c'est un peu raté, parce que t'as enchaîné quasiment aussitôt, en quelques mois, quoi.
Bah oui, j'ai eu quand même 6-7 mois où j'ai pu partir au Chili, au Pérou. J'ai eu le temps de faire des stages, de retourner un peu au conservatoire. Et la série est arrivée, j'ai appris la nouvelle, j'ai passé le casting en février. Du coup, je suis arrivée en mars. Donc c'est pas pour ça que je suis partie d'Un si grand soleil, mais par contre la série effectivement, ce qui m'a motivée à la faire, c'est effectivement tout ce panel de choses qu'on peut faire. C'est fou, c'est que ça arrive qu'une seule fois dans sa vie, je pense, d'avoir la chance de faire des projets comme ça. En tant que comédienne, je pense que ça m'arrivera plus jamais qu'on m'appelle pour faire une série où je peux chanter, danser, jouer dans un lycée en mode Glee Fame, aka tout ce que je regardais quand j'étais petite.
Belle aventure en tout cas. Alex, On va parler de Julianne aussi dans un instant. Ton parcours juste avant cette série?
Alors rien à voir avec ce milieu-là, puisque avant je vivais aux États-Unis et j'étais commercial. Je vendais du marbre à Miami, donc vraiment rien à voir, et je me prédestinais pas du tout à faire ça. Ça a été un peu plusieurs hasards de la vie qui ont fait que Tout pour la Lumière s'est mis sur mon chemin, et ce qui fait que tous les jours en fait j'ai l'impression un peu d'aller dans la cour de récréation, puisque j'ai l'impression que c'est un peu une parenthèse enchantée dans ma vie quoi.
C'est génial quand c'est comme ça, franchement. C'est un changement de vie, changement de route, comme ça, qui est admirable en tout cas. Adela, pour toi?
Alors moi, c'est un peu comme Alex. J'ai participé à The Voice il y a 5 ans, The Voice Kids. Et après ça, j'ai pas eu énormément d'opportunités. Et j'ai suivi un parcours beaucoup plus classique. Et j'étais en fac de droit. Et pendant les partiels du premier semestre, on m'a appelé pour le casting de TP2Z. Je l'ai passé, je l'ai tenté et je l'ai eu. Et du coup, me voilà sur vos écrans. Alors que, ouais, à la base, j'avais ma petite vie tranquille dans le Sud-Ouest.
Voilà, c'est raté, la petite vie tranquille maintenant. Vous avez conscience de ça ou pas? Alors toi, évidemment Marie, je pense que tu connais un peu justement les effets d'une quotidienne qui sont assez rapides, efficaces auprès du public. Mais Alex et Abdella, est-ce que vous en êtes rendu compte assez vite, du coup, là, depuis maintenant quelques jours que c'est diffusé?
De base, je savais pas du tout dans quoi je me lançais. Le jour où on m'a écrit pour me dire de venir passer un essai pour un rôle, je savais pas ce qu'il y avait derrière. Je l'ai fait juste par curiosité de l'opportunité et de me dire que j'allais me créer un souvenir supplémentaire et des histoires à raconter à mes petits-enfants. Et en fait, tout s'est enchaîné assez rapidement sans vraiment que je réalise dans quoi je m'embarquais. Et c'est vrai que là, depuis qu'il y a la diffusion sur Netflix et sur TF1, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent, promos, journalistes, concerts, invitations un peu partout. Et ça fait beaucoup de choses à encaisser d'un coup. On n'est pas forcément ultra préparé quand on vient pas de là. Donc c'est quand même beaucoup d'infos à process dans le cerveau et se dire « Ok ». Faut que je reste concentré, surtout que le tournage n'est pas terminé, donc il faut encore donner le meilleur. Mais par contre, pour la suite, effectivement, ça permet de voir les choses en grand, quoi. Donc hâte.
Pour toi, Adela?
Ben moi, c'est vrai que ouais, pareil, tout s'enchaîne assez rapidement, mais c'est surtout que en fait, on est encore en rythme de tournage de quotidienne, donc on tourne 5 jours par semaine. Et c'est vrai que moi, pour l'instant, j'ai du mal encore à réaliser l'impact de Tout pour la Lumière pour l'instant, parce qu'en fait, on est un peu dans un train en marche. Et là, jusqu'à la fin du tournage, je pense que je vais avoir un peu du mal à réaliser.
En tout cas, ce train, on espère qu'il va continuer à rouler. Marie, donc toi, je disais, tu étais un peu habituée justement à cet effet quotidienne. Et aux gens qui t'abordaient dans la rue en t'appelant Maëva, il va falloir changer de prénom du coup maintenant.
Il va falloir changer de prénom, mais en même temps, je comprends si on continue de m'appeler parfois Maëva, puisque ça a été un personnage que j'ai fait pendant plus d'un an et qui était assez aimé du public, et il sera toujours hyper présent dans mon cœur, donc je comprends qu'il le reste pour les gens aussi. Mais effectivement, si on m'appelle Solène, ça fait plaisir aussi, puisque c'est un autre personnage, c'est une autre histoire, c'est une autre aventure, et c'est trop chouette aussi.
Bon, Marie, justement, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Solène? Comment tu la ressens? Comment tu la définirais, toi?
Solène, bah déjà, je dirais que c'est l'antipode de Maëva, par exemple. C'est vraiment les deux opposés. Quand Maëva était un peu garçon manqué, rebelle, mais solaire et à la fin assez ouverte et accessible dans sa bienveillance et son amour, Solène, c'est l'inverse. C'est vraiment une froideur avec les gens, une carapace. Elle est très ambitieuse, elle est très girly, très carriériste. Elle aime bien être la star, la reine du studio. Mais elle a un point commun, par exemple, avec Maëva, les deux. Et elles se laissent pas faire, quoi. Elles ont un gros caractère, toutes les deux. Et c'est des trucs qui sont assez marrants, parce que pour l'instant, dans les deux seuls rôles que j'ai fait, c'est des personnages comme ça, assez forts.
Peu tempétueux.
Je sais pas comment le prendre, mais en tout cas, je le prends bien.
Mais écoute, t'as bien raison. C'est vrai que c'est un personnage qui est dur, même, par moments. Ouais. Y compris avec sa petite sœur.
Ah, mais elle est horrible. On va pas se mentir, là, je fais la meuf sympa, mais elle est atroce, en fait. Enfin, j'espère ne pas être comme elle dans la vraie vie. C'est pour ça qu'elle a un côté beaucoup plus antipathique que Maëva ne l'était, mais c'est vrai qu'elle va évoluer et j'espère qu'elle finira par toucher un peu plus les gens qui vont aimer la détester, mais à la fin, j'aimerais bien qu'ils puissent l'aimer tout court.
On l'aime déjà, écoute Marie, franchement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Julianne, justement? Comment tu le définirais, toi, Alex?
Beaucoup de choses. Julianne, c'est un peu le rocker rebelle écorché à vif du studio Lumière, qui de base vient de la rue. Hein. Il se fait recueillir dans la rue au début de la saison, et puis après, il fait des super rencontres via le bar, via l'école. Et moi, j'aime bien le décrire comme le cancre gentil. C'est-à-dire qu'il va à l'école parce qu'il veut suivre sa passion, mais d'un autre côté, les règles, il en a un peu rien à faire. Il faut pas trop lui dire ce qu'il doit faire et il veut rien devoir à personne. Ce qui malheureusement le fait se mettre dans de beaux draps avec avec des mensonges et plein de choses qui en découlent. Il est quand même relativement solitaire, mais il trouve au studio Lumière une famille qu'il a pas tellement en dehors de ça. Et voilà, à côté de ça, c'est quand même un garçon qui est relativement attendrissant. On voit dans les premiers épisodes qu'il prend Élise, donc la petite sœur de Solène, qui est pas aimée par sa sœur, bah, du coup il va jouer le rôle de... Oui, mais bon, voilà, il manque ce rôle de grande sœur un peu réconfortante. Julianne le prend. Ils vont vivre des petites histoires un peu sympas tous les deux, à s'aider l'un l'autre, puisque les deux sont des cœurs fragiles et perdus.
Ils vont pouvoir compter sur Maddy, évidemment, aussi, évidemment. Abdella, pour toi, comment tu le définirais, justement, Mohamed ?
Alors, moi, le perso que j'ai la chance d'interpréter est trop cool. Et en fait, il est assez proche du mien. C'est un étudiant assez solaire, qui est pas là pour écraser les autres, il est vraiment juste là pour se donner à fond, mais toujours dans la sympathie, la bonne humeur. Et à côté de ça, c'est un personnage aussi un peu dragueur. Vous le verrez au fur et à mesure des épisodes. Et non, pas très fort en danse, mais voilà, c'est vraiment le bon pote du studio Lumière. C'est-à-dire que même avec Solène qui fait un peu la reine du studio, même si des fois on va un peu se chamailler, c'est toujours toujours avec le sourire et la bonne humeur. C'est vraiment un personnage solaire.
Ça change beaucoup de choses, hein, le fait d'être diffusé aussi sur une plateforme comme Netflix, par exemple. Vous allez recevoir des messages dans toutes les langues.
Pour l'instant, on est sur Netflix France, donc il n'y a pas encore d'autres pays de Netflix qui peuvent regarder cette série. Donc ça reste. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est effectivement d'avoir TF1 et Netflix. Ça fait deux fois plus de personnes qui peuvent regarder. Rien que là, tout de suite, ça fait pas longtemps qu'elle est sortie. Il y a déjà pas mal d'engouement et c'est assez fou. Ouais. C'est trop bien.
Je me permets, hein. Mon rêve, c'est que vu que j'ai de la famille aux États-Unis, que je vis là-bas, j'ai beaucoup d'amis, c'est que je propage la série aux États-Unis au point où ils la rachètent. Je sais que tous mes potes déjà ont acheté un VPN pour le regarder, donc je sais qu'il y a une petite partie du territoire américain qui nous regarde et ça fait plaisir.
C'est chouette, un petit VPN France et puis voilà.
Il y a des gens de ma famille du Chili qui regardent, enfin voilà.
Génial tout ça. Bon, en tout cas, merci à tous les trois d'être venus nous voir. On va rappeler quand même que Tout pour la Lumière, c'est du lundi au vendredi à 18h sur TF1. C'est 5 jours en avance sur Netflix, 2 jours en avance sur TF1 Premium. Bref, si on vous rate, c'est vraiment, on veut pas. Donc, exactement. Voilà, il faut y aller. Merci Marie, merci Abdella et merci beaucoup Alex d'avoir été avec nous. On vous embrasse, à très vite.
Let's go baby.
Gros bisous.
Au revoir.
Le Hater Dict a été doublé par un sosie vocal dans un concert il y a 20 ans.
Ah, mais tu crois pas que j'ai autre chose à faire dans la vie que de te harceler sur les réseaux sociaux ?
C'est moi qui ai dit ça à Joël hier. Comme par hasard, le Hater l'a repris le soir même.
Quoi, sérieusement, tu me crois capable de faire un truc pareil ?
T'es encore sur cette histoire de followers ?
Ça commence à prendre, là.
Il faut proposer autre chose que des vidéos de toi qui chantes ou qui danses.
N'oubliez pas de vous abonner tous qui me suivent, 14h, live info. Bisous tout le monde.
Elle est pas très concentrée sur les cours en ce moment.
Ah bah, je suis en plein live, là. Allez les amis, on enchaîne, Jumping Jacks.
On n'est plus très sûr de continuer le cycle au studio.
C'est encore à cause de l'histoire du deal avec Roman ?
Je signe un élève si tu sors ce single.
Ça m'aiderait de bosser avec elle.
De remettre à travailler avec lui en studio, tu vois, ça peut réveiller des choses. C'est comme ça qu'on était le plus efficace, qu'on pouvait se concentrer à 100% sur la musique.
Allez, il joue le rôle du chef Marc Leroy, puis vous l'adorez dans Tandem. On a eu l'occasion de pouvoir revoir plein de saisons sur France 3 tout dernièrement. Il est avec nous, Stéphane Blancafort. Bonjour Stéphane.
Et bonjour, comment ça va ?
Ça va très très bien. Écoute, je suis très heureux de t'avoir ici. Tout commence, une très très belle aventure pour Marc Leroy, alors que celle de Tandem s'est arrêtée, mais on revoit encore des épisodes. C'est toujours génial de voir une série qui devient culte comme ça et qui fait encore de l'audience en prime time. Il y a des rediffusions alors qu'elle est finie depuis 2 ou 3 ans.
Mais ouais, carrément. C'est assez surprenant même. Moi, quand je me suis lancé dans cette aventure, à aucun moment j'ai pensé que ça pouvait nous arriver aussi, quoi. Voilà, mais ça, c'est les aléas de ce métier. C'est une surprise à chaque fois, ouais. Et de se dire que, ouais, c'est culte, ouais, un peu, ouais. C'est beau de dire ça, j'aime bien.
Vous en avez parlé avec Astrid, justement, de ça, ou peut-être de cette possibilité un jour de revenir pour un unitaire un peu événement, ou de reprendre vos rôles?
Ouais, on en avait parlé quand on a fait l'unitaire. C'était censé être l'unitaire final, vraiment, quoi. Donc je pense que revenir sur Tandem avec Léa et Paul, non, ça va rester sur ce qui a été fait, et puis voilà, il y aura pas de suite, je pense pas, non.
Voilà, vous avez quitté l'écran tel des légendes.
Bah c'est ça en gros, ouais, et puis en expliquant comment c'était passé avec ce retour vers le passé, donc c'était bien de donner un résumé sur 90 minutes en plus, qui était un format différent de ce qu'on avait l'habitude de faire, pour tout raconter. Je crois que c'était la meilleure façon de partir.
Alors que Marc Leroy était en couple avec Rose, il faut dire que ton personnage cette saison n'a pas été épargné. On a vu qu'il avait quelques démons qui essayaient de revenir. Il y a eu quelques jolies scènes, en tout cas dans Ici tout commence, qu'il a essayé de cacher, évidemment, son penchant pour l'alcoolisme. Et puis au fur et à mesure, cette arche s'est développée. Ils nous ont montré une autre facette aussi de ce que tu peux jouer. C'est ça qui est bien.
Oui, c'est ce qui est intéressant. Puis je remercie encore la prod, l'écriture, de m'avoir proposé ça, d'avoir écrit cette intrigue-là autour de ce personnage. On savait qu'il avait des démons. démontre, tout comme Tessier avec, je crois que c'était la drogue, hein, lui. Ce sont des hommes mûrs et qui ont combattu des choses et ils sont quand même encore vulnérables, fragiles. Et le moindre truc, enfin le moindre truc, parce que là c'était quand même un peu compliqué, il y avait un gros chantage quand même de la part de Avi Marciano. Je le balance direct.
Et franchement, c'est le combat de coq, hein, les deux. Là.
Ouais, 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 mais c'était bien de rencontrer Avi aussi sur un personnage comme ça, un peu machiavélique, beaucoup, très machiavélique d'ailleurs. Et ce chantage-là était compliqué pour Marc Leroy, effectivement. Soit l'amour, soit le fils. Ouais, dans la balance, ça pèse, quoi. Donc c'est compliqué. Je crois que dans la vie d'un homme, on n'a pas envie de tomber là-dessus, quoi. Donc ouais, les démons de l'alcool sont revenus, quoi, pensant que ça pouvait être un appui.
Oui, parce que pour résumer, en fait, le personnage de Jim, ton fils, a été retrouvé parce qu'il était militaire un peu, on va dire, échappé, en quelque sorte. Et donc, il a été, en tant que déserteur, retrouvé. Et évidemment, il a été ramené en caserne, hein, directement, pour le coup, en prison, je sais même plus trop. Mais le personnage d'Avi Marciano, lui, qui a un peu le bras long, a fait du chantage pour retrouver Rose en disant « soit je libère ton fils ». Soit tu me laisses Rose, mais en tout cas c'était un chantage, mais c'était dingue quoi.
C'est horrible. Et c'est une intrigue que t'emportes un peu chez toi, avec toi, dans ta vie perso, et ça peut compliquer un petit peu certaines choses quoi parfois aussi, parce que les cellules ont cette information que ouais que la vie est pas simple et qu'il y a des choix à faire et que c'est parfois pas forcément les bons.
Est-ce que les choses vont s'apaiser un peu pour Marc?
Oui, il est parti en cure, hein, 57 jours de cure de désintoxication. Dans la même clinique où il avait déjà fait 11 ans auparavant une première cure, la même chambre. Donc c'est bien, il a ses repères, son petit confort. Il va revenir plus fort que jamais. Ouais, il revient. Puisque j'ai tourné là déjà quelques séquences. C'est aussi pour assurer les gens qui pensent que, comme ma compagne est partie de la série, je pars aussi. Non, je ne pars pas, je reste là. Marc Leroy a encore des choses à dire et des choses à faire.
On n'en doute pas. Puis ça t'a peut-être laissé le temps de faire d'autres choses, de voir d'autres projets.
Oui, tout à fait, oui, oui. D'autres projets qui, pour l'instant, seront pas forcément à l'écran, mais c'est des choses qui sont en construction. Et puis il y a la vie aussi, surtout, encore une fois. On essaie de dégager du temps pour les choses personnelles, l'avancée des projets qu'on a mis en place avec Catherine, justement, aussi. Donc des choses très personnelles, les enfants aussi, le rythme de la vie perso, les vacances. Voilà, c'est du gros boulot, quoi, aussi. Il faut y penser. C'est vrai que si on est tout le temps sur les plateaux, ce qui est une bonne chose aussi, on a du mal à gérer un peu la famille.
Oui, c'est ça. Et vous préparez quelque chose de très joli avec Catherine, puisque vous avez acheté un domaine et vous avez envie, en tout cas, de créer des gîtes, des chambres d'hôtes pour permettre justement d'accueillir peut-être des premiers vacanciers l'été 2026.
Ouais, voilà, c'est ça. On a acheté l'ancien moulin du château de Bournazel, moulin à grains, qui est une grande bâtisse, qui était déjà habitée, donc il n'y a pas d'énormes travaux à faire, mais il y a tout un réaménagement à mettre en place. On manque de temps pour le faire, mais on aimerait ouvrir 3 hébergements en Airbnb ou voilà, en location en tout cas. Voilà, il y a une piscine, il y a un confort qui est là pour accueillir les gens. On espérait le faire pour cet été. Là, ça me paraît un peu compromis. On le fera peut-être à moitié, on verra. On va commencer peut-être par un hébergement et puis les deux autres un peu plus tard. Mais en tout cas, ouais, c'est un beau projet de vie et c'est un coup de cœur surtout. Voilà, on a mis en parallèle les paramètres qu'on désirait l'un et l'autre avec Catherine, qu'on aimait dans une maison. Et puis il s'est trouvé que celle-ci proposait tout. Ça a été notre première visite, la seule visite. Et c'est en Aveyron, région dont on est tombé amoureux rapidement en la traversant. On a fait tous les deux, waouh, mais qu'est-ce que c'est ? C'est une découverte vraiment géniale, fabuleuse et assez inattendue. Et on est tombé d'accord sur absolument tout, comme d'habitude.
On viendra vous voir là-bas, c'est sûr, en tout cas, mon cher Stéphane. Écoute, en tout cas, ça continue. Si tout commence tout l'été, 18h35, vous êtes rattrapé maintenant aussi par vos petits copains de Tout pour la Lumière juste avant. Ouais. Une grande horde de séries télé tout au long de l'été, en plus des quotidiennes qui continuent en inédite tout l'été pour vous accompagner. En tout cas, chers téléspectateurs, merci beaucoup Stéphane. À bientôt.
À bientôt, à très bientôt. Et c'est vrai que du coup, on peut dire que ici, tout continue.
Exactement. Et que demain nous appartient. Exactement. Puisqu'on a Tout pour la Lumière l'été.
Exactement, c'est sous ce si grand soleil. C'est...
Précédemment.
À nous deux. On cherche des pigistes parfois. Et ça te dirait d'écrire pour nous ?
Bah écoute, si je peux rendre service, ouais.
En attendant, tu peux peut-être me faire visiter l'institut ?
Tu vas pouvoir aller voir Gaspard en paix maintenant.
Bah vraiment pas, meuf.
Gaspard, il te plaît plus ? Il est interdit surtout. On a dit pas les mecs de l'institut.
En plus, je garde très bien les secrets.
Je suis en train d'ouvrir un nouveau lieu en ce moment et j'aimerais que tu me secondes à temps plein.
À New York.
Si le chef Saint-Sœur m'avait fait la proposition une semaine avant, j'aurais été comme un ouf. Pourquoi tu me l'as pas dit que t'étais enceinte quand tu l'as su ?
C'est à cause de toi s'il y a une contraction.
M'agresse pas, je viens juste prendre des nouvelles.
Ferme ta gueule, Souleymane.
Non, toi t'aurais dû fermer ta gueule. Au lieu de la demander en mariage.
Et on continue à parler de Nouveaux Jours cette semaine, votre série du lundi au vendredi à 20h35 sur M6. Ça y est, vous avez vu les premiers épisodes. Et on va vous mettre à l'honneur un peu les personnages de la série. Et c'est Brice Head qui nous rejoint, qui joue le rôle de Pablo. Bonjour Brice.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Nouveau défi, c'est un challenge incroyable pour un jeune comédien. Et c'est vrai que Nouveaux Jours, franchement, c'est un projet de fou. Comment t'as réagi quand t'as su que t'étais pris pour la série?
Oh bah, un peu ému, évidemment. La première fois, c'est-à-dire qu'en plus, je m'attendais pas trop à être pris dans la série, on va dire, parce que j'avais vu en fait tous les autres potentiels comédiens qui allaient jouer pour Pablo, et quand je les ai vus, j'ai fait non mais c'est pas possible, c'est foutu. Et en fait, je pense que il y a un truc qui s'est lâché en moi, en mode il y a pas eu de pression et j'y suis allé vraiment, on va dire smooth pendant le casting. Ça s'est très bien passé, et quand j'ai appris la nouvelle, j'étais forcément un peu ému, forcément pour les parents aussi, parce que forcément il y a, alors moi j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu jusqu'au bout, mais il y a des inquiétudes qui se créaient, et du coup au final ça l'a fait. Donc ouais, c'est un vrai accomplissement, et c'est une très bonne école pour apprendre à jouer aussi. En fait ce qu'il faut se dire, c'est que quand on est comédien, c'est qu'on a toujours à apprendre, en fait, quoi qu'il arrive.
C'est quoi ton parcours juste avant?
Et en fait, avant ça, alors moi je suis pas de la région, je viens de Normandie de base, dans un petit patelin qui s'appelle Le Trait, entre Le Havre et Rouen, et je suis descendu à 18 ans dans le sud du coup pour faire des études, au début en réalisation. Du coup, donc de la réalisation cinématographique, faire des films. Et un peu contre mon gré, je suis venu à être comédien au début. Et en fait, parce qu'au début, je voulais vraiment être derrière la caméra. J'aimais pas du tout être devant. En fait, c'est ce qui me plaît le plus aujourd'hui. En gros, c'est l'idée de pouvoir s'immerger. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo un peu. Donc, quand on est acteur, on peut être Link dans Zelda. Avec un peu moins de charisme pour le coup là actuellement, mais du coup ouais, il y a cette sensation là où j'ai l'impression de pouvoir m'immerger dans un univers. Ce qu'en réalisation on peut faire, on peut se créer sa bulle, mais comme on est plus à l'arrière, qu'on gère la mise en scène et tout, il y a un peu plus de recul, alors que là quand on est comédien, même si on a des retours techniques, on peut pleinement s'immerger.
Tu peux nous parler de Pablo un peu justement? Comment tu le définis, toi, ce jeune homme qui fait partie du personnel, en tout cas, du domaine Bartoli?
Pablo, le premier mot, on va dire, qui me vient en tête quand je pense au personnage, c'est quelqu'un de passionné, on va dire, qui a en fait beaucoup de facilité dans ses domaines. C'est-à-dire que Pablo était étudiant en criminologie. C'est quelqu'un qui est passionné à fond par ce domaine-là, et il a sa petite vie à côté où il est barman, du coup, à la Peña Loca dans la série, donc un des bars de la série. Et il est barman, et donc pour combler ses fins de mois, parce qu'il est en études, tout ça. Et donc dans sa vie un peu de tous les jours, c'est quelqu'un qui est un peu maladroit, qui fait beaucoup de bourdes, qui est assez mal à l'aise en amour. En fait, dans tout ce qui est sujet, on va dire un peu de la vie en général. En fait, c'est un personnage qui, je pense, là, est un peu en transition, encore presque de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Un peu, il y a un peu de ça. Alors,
c'est un adolescent.
Un adolescent, tout à fait. Ouais, il y a un peu. Oui, c'est complètement ça. En fait, c'est qu'il a un côté petit garçon sur les choses. Par exemple, il sait pas vraiment nager, en fait, donc il a tout un arc où il va apprendre. Je sais pas s'il réussira, moi je le sais.
On verra.
On verra.
Exactement, regardons, c'est bien, comme ça on va essayer de savoir quand même à un moment donné s'il va arriver à nager dans le bonheur, surtout aussi, parce qu'est-ce qu'il rencontrera peut-être l'amour ici au domaine Bartoli, on sait pas.
Peut-être aussi, on sait pas non plus, et j'avoue que là moi-même je ne sais pas, mais du coup, c'est quelqu'un en tout cas qui est vraiment passionné, et qui, je pense, c'est touchant parce qu'il est toujours à fond en fait dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui veut toujours bien faire, mais qui des fois, à force de vouloir trop bien faire, fait des pas de trop ou fait des bourdes, et j'avoue que c'est un personnage qui, c'est vrai, peut coller un petit peu à ce que je suis dans la réalité. Et en même temps, c'est un personnage qui a plein de facettes, donc en fait c'est intéressant de le jouer, parce que comme je disais, il a une phase un peu plus crédule, on va dire, pour les choses de la vie, de la vie en général.
Il amène beaucoup de comédie aussi,
et il amène beaucoup de comédie par ça. Donc il a sa vulnérabilité, mais en même temps c'est aussi un peu sa force en fait au personnage. Et en même temps c'est quelqu'un qui peut devenir Dexter du jour au lendemain, parce qu'il y a une enquête qui se met. C'est un petit Sherlock quand même sur les bords, mais qui a ses fragilités. Et je pense que de retrouver de la fragilité dans des personnages masculins, ça devient un peu rare, j'ai l'impression. Et je pense que c'est bien qu'on retrouve des personnages un peu comme ça, justement.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans cette série? Est-ce que tu t'y vois à long terme? Est-ce que tu as envie de faire un joli parcours? Parce que c'est vrai qu'on dit que c'est une école, mais c'est vrai qu'une série quotidienne, ça peut te permettre de développer un personnage avec énormément de facettes différentes en 2 ans de temps, par exemple?
Bah, en fait, je pense qu'il est à long terme, pour être honnête, parce qu'il est récurrent, il est dans une des grandes familles, donc qui est la famille Fabre. Donc c'est le fils de, vous avez peut-être dû voir Étienne, joué par Bastien Bernini, et Marin, qui est joué par Léo Vazoler. Et moi, du coup, je joue le frère de Marin, donc le fils d'Étienne. Moi, j'ai des envies par rapport au personnage dont j'ai pas forcément parlé, mais par exemple qu'il ait un twist à un moment, qu'il devienne un peu méchant ou autre. Ça, c'est des choses que j'aimerais bien faire. Et je pense que là, pour l'instant, ce qui est prévu, c'est que ça s'érige de plus en plus vers le parcours de criminologue de la série. Et donc, je pense qu'il va être de plus en plus impliqué. On commence par des petites affaires comme là, un vol de montre, on va dire. Et là, on va peut-être aller vers des choses où il serait impliqué dans des histoires de meurtre, mais je peux pas trop en dire non plus.
En tout cas, vous avez envie de voir Pablo dans ses œuvres. Eh bien, rendez-vous du lundi au vendredi, évidemment, à 20h35 sur M6 et sur M6+. Et puis l'avantage, c'est, on rappelle, hein, vous avez 2 épisodes d'avance aussi sur M6+, pour les abonnés premium. Donc, vous pouvez avoir la suite en avant-première, parce que chaque fin d'épisode, évidemment, nous amène à un suspense insoutenable. Voilà, merci beaucoup.
Bah merci à vous et puis
à bientôt Brice.
Ouais, et puis bah vive la vie hein, la vie est chouette.
T'as bien raison. Exactement. C'est un nouveau jour aujourd'hui en tout cas. À très vite.
À bientôt du coup.
Précédemment.
Vous refilez ma suite au premier type en slip qui passe. Et donc on fait comment?
On fait trop de bruit, c'est ça? T'as page nocturne?
Non, il fait jour en fait.
C'est pas l'autre folle botoxée qui t'envoie là quand même? Tu peux dire à mamie que je prolonge ma résa tout l'été. Allez, bonne journée, merci.
Le corbeau. Il m'a contacté. On est d'accord que les flics vont se bouger. Hein.
Ils sont sur le coup, mais je veux pas que tu t'emmènes.
Faut absolument que je trouve qui est ce corbeau.
J'ai trouvé ça l'autre jour sur le voilier. C'est le téléphone d'Aurel.
Qu'est-ce que c'est ces conneries?
Wally, on se casse, moi, putain!
Théa, tu bosses ici?
On a retrouvé une de vos stars des années 80 que vous aimez tant, puisque il nous a bercé toute notre jeunesse. Jean-Pierre Savelli, dit Peter, du duo Peter et Sloan, qui est avec nous. On va parler de son actualité, on va parler de ses spectacles, on va parler de sa biographie qui vient de sortir aussi chez Amazon, qui s'appelle Regarde, le jour se lève. Jean-Pierre Savelli, bonjour.
Bonjour.
On a déjà dit beaucoup de choses là, hein, en peu de temps. Mais il faut dire, Jean-Pierre, que tu restes dans notre inconscient collectif. On a tous grandi avec tes chansons, avec ton duo aussi. Et puis ben, aujourd'hui, l'aventure continue. Il y a des spectacles, un hommage à Michel Legrand, qui a été ton premier producteur. Raconte-nous ça.
Ben écoute, c'est ce que je raconte un petit peu dans le livre. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de chance, mais après, la chance, il faut la provoquer aussi. Mon père était parti à l'âge de 16 ans de Corse pour faire sa carrière à Paris. Moi, je suis parti à 19 ans. Et suite à une rencontre loupée avec Georgette Plana au Carrefour Pleyel à Paris, pour ceux qui connaissent, je suis allé à la salle Pleyel. Et à la salle Pleyel, bah écoute, voilà, ma carrière a démarré, puisque quelques semaines après, j'ai rencontré Madame Legrand, la mère de Michel Legrand. Et c'est Michel qui allait devenir mon premier producteur. Donc 5 mois après, j'ai envoyé mon contrat à ma famille à Toulon, leur disant, j'ai rencontré celui que j'adorais. Incroyable.
Et donc tu es sur scène avec tes musiciens, et donc c'est les compositions de Michel Legrand que tu joues justement sur scène.
Oui absolument, j'ai un petit peu laissé un peu de côté le côté 80, parce que depuis 2005 on est sur les planches avec les tournées, les films Star 80 et compagnie, mais là vraiment j'avais envie de passer un peu à autre chose, donc j'ai enregistré 14 chansons de Michel Legrand, donc live avec mes musiciens, et le 2 août ça va commencer près de Toulon, les spectacles.
Et après, ça tournera évidemment partout en France. Si vous souhaitez en tout cas accueillir Jean-Pierre Savelli dans la région, n'hésitez pas. Manga Story aussi, c'est un autre spectacle où tu chantes avec Sandri les plus grands génériques de dessins animés. Là aussi, on va se remanier en enfance. Et ça fait du bien, on en a grand besoin en ce moment.
Eh oui, alors tu sais, les gens, bon, c'est vrai, ceux qui m'ont connu en tant que Peter avec besoin de rien, ne savent pas tout ce qui s'est passé avant. Bon, Michel Legrand, la Révolution française, la comédie musicale, enfin le rock-opéra, plusieurs films avec Lelouch où j'ai prêté ma voix. Mais les mangas, c'est arrivé en 1978 où on me propose de faire Goldorak. Et puis a suivi Albator, Xor, Il était une fois l'espace. Eh bien, depuis quelques années, qu'est-ce qu'on fait? On fait des salons manga et ça marche de tonnerre. C'est un peu comme le 80, hein. Les gens ils chantent tout. On a fêté les 50 ans de Goldorak au Grand Rex de Paris, devant 2700 personnes. Et c'est le fils du célèbre compositeur Cérone, Jérémy Cérone, qui produit le spectacle.
Ça, c'est génial, parce que les génériques sur scène, je vois Maya l'Abeille, Tom Sawyer, Albator, Candy, Xor, ça parle à tout le monde aujourd'hui, à toute une génération.
Absolument, ça c'est fabuleux. Moi, jamais quand on a enregistré tous ces génériques, on aurait pensé que oh, c'est comme besoin de rien. Jamais on aurait pensé 30, 40 ans après que les gens chanteraient toujours nos chansons.
Et je suis pas sûr que dans 30 ou 40 ans, il y en ait qui chantent les génériques des dessins animés d'aujourd'hui.
Ah, ça c'est sûr. Mais en tout cas, moi j'ai cette chance.
Maintenant, c'était une belle époque quand même.
C'était une belle époque. Et puis il y avait des chansons qui étaient quand même facile à interpréter, à chanter. Et moi, je suis fier d'avoir fait tout ça. Et même si c'est des choses très diverses, c'est le métier d'ailleurs me dit un peu comment on peut chanter du Michel Legrand et du Goldorak après. Ben on peut quand on a une voix. Voilà, c'est tout.
Qu'on sait l'utiliser. Ouais. Et cette biographie, justement, Jean-Pierre Savilli, Deep Peter, Regarde le jour se lève, est disponible évidemment sur la plateforme Amazon notamment. Et tu te racontes dans ce livre, littéralement.
Oui, on est parti de quand je suis né à Toulon, près du Stade Mayol. Je suis un fou du rugby et donc du RCT. Et je raconte, voilà, depuis l'âge de 3-4 ans, la guitare de mon père, les accords, les premiers accords, les concours de chant, ma vie à Toulon. Et puis après, le départ à Paris. Et puis toute ma carrière jusqu'à maintenant.
Et ce duo emblématique, Peter et Sloan, est un duo qui a bercé plusieurs générations et qui continue aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est arrivé dans ta vie, qui a dû être un tsunami, finalement, un tsunami d'amour du public, un tsunami de notoriété. Comment on vit tout ça ?
Alors écoute, c'est vrai que j'aurais préféré le faire sous mon nom, ce duo, mais je pouvais pas à cause d'un contrat que j'avais avec une maison de disques, le Palais des Congrès de Paris, et donc j'ai été obligé de prendre un pseudo. Moi j'en ai souffert parce que franchement on fait ce métier quand même pour être reconnu en tant qu'auteur, compositeur ou interprète et tout. Alors j'avais fait beaucoup de choses avant parce que j'ai vendu plus de 5 millions de 45 tours avec les Goldorak et compagnie, mais le duo c'était carrément dommage de prendre un pseudo, mais j'étais obligé. Sloan, c'est parce que j'avais fait une chanson qui s'appelait Slow pour Anne, donc on a trouvé son prénom comme ça. Et puis c'est vrai que ça a été une surprise quand on nous a annoncé numéro 1 du top 50, on savait même pas ce que c'était. Canal Plus qui venait de naître le 4 novembre, la tournée avec Michel Leb, 80 dates. Bon, moi je connaissais le succès avant, mais ça a été un véritable tsunami, comme tu as dit, mais un bon tsunami. Voilà, plein de bons souvenirs.
Bah oui, parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'amour qui arrive tout de suite, et c'est vrai que bah, c'est quelque chose bah, qui vous poursuit tous les deux, hein, avec Sloan qui vous lira jamais, mine de rien. En tout cas, ce livre permet d'en apprendre beaucoup plus sur toi, sur tout ce qui est à l'extérieur justement de ce duo qu'on connaît tous emblématique avec Sloan, mais là on apprend vraiment Jean-Pierre Savelli et son histoire. C'est ça qui est bien.
Mais c'est ce que je voulais un petit peu, parce que c'est vrai que tu vois des garçons comme Gérard Louvain, Michel Drucker ou Patrick Sabaty, ils m'ont jamais appelé Peter. Même quand j'étais dans le duo, ils me connaissaient trop avant. Ça fait toujours tout drôle de dire c'est Jean-Pierre et Sloan, tu vois, c'était bizarre. Mais bon, ce duo, c'est vrai que il est rentré dans le cœur des Français parce qu'il y avait plus Sloan et Chardin qui avaient arrêté de chanter ensemble. Et puis nous, le brun, la blonde et tout, ils nous ont pris pour un vrai couple. Ils sont mariés, ils sont divorcés. Bon, ils ont inventé plein de choses sur nous. Et voilà, et puis ça continue.
Ça vous fait rire, vous, tous les deux ?
Oui, beaucoup. Mais bon, nous, on jouait le jeu. Hein. Le petit bisou, je l'ai lancé un jour au Québec dans un téléthon. Et le producteur m'a dit, ça, c'est une bonne idée. Dans Star 80, le fameux bisou, là, on connaît l'histoire. Hein. Puis là, moi, il y a 7 ans, franchement, j'avais envie de reprendre ma carrière en solo. Parce que j'étais un peu barré par les chansons, tu vois. On n'avait plus de production, plus de producteurs. Je me sentais libre de faire de nouveau ma carrière en solo. Et là, depuis 7 ans à Toulon, je suis très heureux avec ma femme. On fait des spectacles nouveaux. On est sur scène. On a une école un atelier comédie musicale dans 3 villes du Var. On a près de 80 élèves. Et cette année, c'est une première parce que là, le 29 juin, on fait le Zénith de Toulon avec nos élèves. C'est que les comédies musicales françaises. Ça, je les défends à fond.
En tout cas, si vous voulez vous procurer la biographie de Jean-Pierre Savelli, Deep Peter, Regarde le jour se lève, c'est disponible sur Amazon. Et puis peut-être effectivement que vous aurez le spectacle Manga Story ou l'hommage à Michel Legrand qui passera près de chez vous. Il y a les CD aussi, bien sûr. Donc n'hésitez pas. Et puis on va se quitter, mon cher Jean-Pierre, évidemment, avec ce titre qui a bouleversé ton existence. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Parce que moi, j'ai besoin de rien, envie de toi. Mais oui, et puis à l'approche de l'été, c'est un slow qui va faire danser les campeurs, je crois, tout l'été. Hein.
Alors écoute, là tu vois j'ai sorti une version assez sympa de Besoin de Rien, en solo, guitare. C'était un cadeau que j'ai offert à mon pote Jean-Luc Lahy à 5-6 ans pour son anniversaire. Et du coup, tout le monde m'a dit, mais cette version elle est géniale quoi, guitare-voix.
Tu l'as avec toi ?
Oui, c'est un vrai slow, c'est vrai. Il n'y en a plus, tu le sais, de slow.
Mais attends, tu vas nous le passer là, et puis on va passer cette version-là.
Mais je pense qu'il faut passer cette version-là. Et les gens vont voir qu'une chanson duo se chante en solo et vice-versa. Le texte est mis en valeur différemment. Et je pense qu'en tout cas, moi j'ai pris du plaisir à enregistrer cette version, et je vous la donne avec plaisir.
Eh ben allez. Merci beaucoup Jean-Pierre.
Merci à vous, à bientôt.
Se lève dans la tendresse sur la ville, tu me fais vivre comme dans un rêve, tout ce que j'aime. Besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Tu vois le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, comme le rouge aime l'automne. Tu sais, l'amour, c'est à Vérone qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, oh j'aime. Quand tu m'embrasses, oh, je suis si bien. Premier matin caresse, matin tendresse, tu es si belle. Le jour se lève, nous on s'aime. Besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Tu vois le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien, envie toi, comme le rouge aime l'automne. Tu sais, l'amour, c'est à Vérone qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi. Besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Tu vois le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, comme le rouge aime l'automne. Tu sais l'amour, c'est à Vérone qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi. Besoin de rien, envie de toi.
Allez, ne bougez pas, dans un instant, Édouard Pluvieux, Maxime Gasseuil et Gérard Junior nous rejoignent. C'est notre spécial, il n'y a pas de réseau pour terminer cette dernière de la saison.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook, chut, on écoute la télé.
Je fais mon numéro. D'habitude, ne prends pas la tête. Là, c'est foutu d'avance. On arrête, on commence. Je sais plus ce que je fais. Ça va finir par me plaire. Toi et moi, on se fait la guerre. Je vais finir par me faire mêler de tes affaires. Oublie le tête à tête. Si je t'embête, ça serait chouette ou pas. Viens, on essaie, ouais. À quoi bon se cacher, tout se sait, ouais. Quand on se dit tout, y'a plus d'effet.
jouer, on commence. Mais les dés, je les lance. Je crois que tu me plais. Ça va finir par me plaire, toi et moi on se fait la guerre. Je vais finir par le faire, mêler de tes affaires. Oublie le tête-à-tête, si je t'embête. Ça sera chouette ou pas. Viens on essaie, ouais. À quoi bon se cacher, tout se sait, ouais. Quand on se dit tout, y'a plus d'effet, non. Je dirais à demi-mot. Viens on essaie, ouais. À quoi bon se cacher, tout se sait, ouais. Quand on se dit tout, y'a plus d'effet, non. Je dirais à demi-mot. Viens on essaie, ouais. À quoi bon se cacher, tout se sait, ouais. Quand on se dit tout, y'a plus d'effet, non. Je dirais à demi-mot.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé. Chute on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, ça sera notre dernier coup de cœur cinéma de cette saison. Il y a pas de... mais quel coup de cœur, on est d'accord. Parce que avant, il y avait 14 jours pour aller mieux, mais maintenant, il n'y a pas de réseau. Et c'est le 6 août au cinéma. Et quelle chance on a aujourd'hui. On reçoit le réalisateur Édouard Pluvieux qui est avec nous. Bonjour Édouard.
Salut, comment ça va?
Ça va très très bien. Depuis un an et demi, on se quitte plus, c'est génial. Et puis dans un instant, Maxime Gastaï et Gérard Jugnot nous rejoignent aussi.
Oh non, pas eux.
Non, pas eux.
Ah, ça, on les a assez vus. C'est bon.
Bon, Édouard, en tout cas, c'est une comédie qu'on a pu voir il y a plusieurs mois au Festival de l'Alpe d'Huez, qui nous a fait beaucoup rire. Moi, j'ai rarement autant ri parce qu'évidemment, il y a tellement de références à des films qui ont peut-être marqué plein de générations différentes. De Maman, j'ai raté l'avion, à Taxi, à Top Gun. C'est incroyable tout ce que tu as mis dans ce film.
Ouais, j'ai essayé de mettre tout, tout ce que moi j'aime. C'était très égoïste au départ de mettre un peu tout les films qui m'ont moi marqué. Je suis un grand fan des comédies américaines des années 90. Moi j'ai grandi avec ça. Je suis plus si jeune, mais voilà, c'était vraiment mon cinéma. Maman j'ai raté l'avion, les Jurassic Park, Hook, tous ces trucs là. Donc j'ai essayé de mettre des petits trèfles à ça dedans, ouais, tout en faisant ce film pour les enfants. C'est la part d'enfant en toi qui a aimé ce film quand tu l'as vu.
On a tous une part d'enfant en nous. C'est ça qui va faire que le film va pouvoir être vu par toute la famille et tous on va s'amuser.
C'est l'idée, ouais. Moi, je ris encore tout seul quand je regarde Maman, j'ai raté l'avion. Je pense que ce sont des films qui ont été fabriqués à destination des enfants, mais qui peuvent être vus par tous les âges à partir du moment où tu acceptes de débrancher un peu ton cerveau, de te détendre, de venir pour te marrer et d'accepter les codes de ces comédies d'action, voilà, qui vont loin, quoi.
Alors, qui vont loin, vous allez voir, oui, parce qu'il y a déjà deux enfants qui sont absolument incroyables, ouais, au casting. Je sais pas combien t'en as vu pour arriver à avoir ces deux pépites-là, mais ils sont dingues, hein.
J'en ai vu beaucoup et j'ai eu la chance incroyable de travailler avec Romain Angèle, le petit garçon, et Roxane Barazuol, la jeune fille, qui sont deux jeunes acteurs formidables, qui ont beaucoup donné au film. Tout le monde me dit, ah, ça doit être dur de diriger des enfants. Moi, je trouve ça limite plus simple que diriger des adultes, parce que ils sont là pour s'amuser. Il n'y a pas d'ego, ils se regardent pas jouer, ils sont juste généreux. Et c'est une grande chance, et vous allez voir, ils sont à la fois badass et mignons comme tout.
Alors, le casting est dingue aussi. Bernard Farcy, on va y suivre d'abord les personnages donc de Julien Pestel et de Manon Azen qui débarquent avec leurs deux enfants dans des cabanes perchées en plein milieu d'une forêt pour un petit séjour en vacances chez Abou Bretman qui est juste délicieuse comme d'habitude et que tu retrouves après 14 jours pour aller mieux d'ailleurs. Et donc, ces deux enfants vont être aux prises avec deux malfrats qui ont décidé de faire sauter un pylône télécom, une antenne relais, et donc du coup il y aura plus de réseau, mais en tout cas entre ces deux malfrats et les deux enfants qui vont se retrouver l'un contre l'autre, c'est une espèce de guerre des boutons qui commence.
C'est ça, et je te remercie d'avoir cité tous ces beaux acteurs. Il manque aussi Julien Santini. Moi, je crois fondamentalement qu'on réussit une comédie au casting, au moment du casting. C'est-à-dire que c'est là qu'il faut vraiment tout donner, de trouver les bonnes personnes et d'écrire pour eux, tu vois. Et j'ai la chance d'avoir dans ma jeune famille, puisque c'est mon troisième long métrage, dans ma jeune famille d'acteurs, d'avoir Zabou, d'avoir Bernard, qui sont des acteurs remarquables, et d'avoir intégré maintenant Gérard, que je veux plus quitter non plus. C'est ça mon problème, c'est que je tombe amoureux de mes acteurs, après je veux tourner avec eux. Donc, il faut que je réécris pour tous les remettre, tu vois.
Là, même pas un an et demi entre 14 jours pour aller mieux, est sorti il y a un an et demi et là, il y aura même pas un an et demi hein, pour le coup entre les deux. Comment t'as fait ce tour de force?
Ben, le scénario de Y a pas de réseau était déjà presque écrit avant le tournage de 14 jours pour aller mieux. On l'a terminé pendant la post-production de avec mon cher co-scénariste sans qui j'aurais pas réussi à faire tout ça, que c'est Olivier Ducret, qui a pu travailler pendant que je tournais.
À qui on doit et plus l'affinité, qui est extraordinaire aussi, avec son comparse.
Ouais, il a écrit beaucoup de films, c'est un auteur très talentueux. Et voilà, bah, parce que ça s'est bien goupillé, on avait un bon scénario, on a eu la chance avec nos producteurs Benjamin Demey, Maxime Delaunay et Romain Rousseau, qui ont réussi à financer, parce que c'est ça hein, la réalité de nos métiers, c'est que tu dois avoir des producteurs qui arrivent à financer ce que t'as dans la tête pour trouver bah, nos partenaires qui sont Pathé, TF1 Studio, Netflix, M6 sur ce film, et j'espère que j'en oublie pas parce que parfois j'en oublie, mais voilà, tous ces gens-là nous ont fait confiance et on a pu fabriquer ce film dans les temps.
Alors il y a un personnage qui est important, mine de rien, et j'ai envie de savoir si c'est un vrai ou pas, même si j'espère que tu vas déflorer, mais il y a un ours qui est un personnage à part entière quand même.
Et c'est totalement un vrai.
Ça c'est génial.
Ouais, c'est totalement un vrai ours qui s'appelle Valentin. Il a même un prénom. C'est le seul ours au monde avec lequel je vous le redis, hein, le seul au monde. C'est pas moi qui le dis, son dresseur de cinéma avec lequel tu peux faire les plans qu'on a fait. Parce que un ours reste un animal dangereux. Sont des grands prédateurs évidemment et normalement t'as pas vraiment d'interaction, notamment un petit enfant avec eux dans le même plan. Et là on a pu le faire parce que déjà on a un ours et un dresseur formidable et un petit garçon Roman qui est très courageux et qui n'a pas eu peur d'aller caresser cet ours et d'interagir avec lui. Et ça fait une scène que moi j'adore et que je trouve très touchante dans le film. Mais c'est un vrai ours, ouais, totalement.
Alors, il y a énormément d'action, c'est très rythmé, le film est très court, il dure 1h20 à peine, mais alors, par contre, c'est mené tambour battant avec un rythme totalement effréné. Quand on a une Ferrari comme Maxime Gasteuil, qui est habitué à la scène, qui est complètement aguerri justement à lancer comme ça et vraiment y aller, c'est un bonheur.
C'est un bonheur et c'est aussi le rythme du film. C'est ce que voulait le film en fait, d'aller vite comme ça. C'est pas un film où t'as envie de t'arrêter parce que si tu t'arrêtes, y a plus rien qui se passe. Parce que c'est une histoire d'action avec des méchants bien débiles qui poursuivent deux gamins. Donc s'ils les attrapent, c'est terminé. Donc faut garder le rythme de la course poursuite et de l'action. Ouais.
Avec Maxime Gandos, c'est un rôle de bonbon débile quand même dans ce coup-là.
Oui, bah écoute, il a été très naturel.
Il va être content dans un instant. Ça va être répété et amplifié.
Tu peux lui répéter parce que je lui dis toujours non. Il a trouvé son personnage. C'est une sorte de Jim Carrey français. Moi, je pèse mes mots. Je n'ai pas honte de le dire. C'est un acteur qui a une capacité physique de grimaces, de conneries avec le corps sans fin. Et j'avais envie d'explorer ça chez lui. Et ça a été payant, je crois.
On va parler de sa petite coiffure aussi dans un instant, je vous le dis. Édouard, qu'est-ce que tu prépares pour la suite? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent là pour toi? Est-ce que là, vu que j'ai bien compris que pour 14 jours pour aller mieux, il y a déjà celui-là qui était dans les rangs, mais est-ce que là, il y a déjà un quatrième film pour toi qui se prépare?
Alors, j'ai pas un film prêt tout de suite à tourner, comme j'avais entre les deux, mais j'ai des idées, ouais. Notamment encore avec Max. Je t'en parle pas encore, mais.
Tu reviendras.
Mais je viendrai t'en parler, évidemment.
Bon, en tout cas avec la famille, j'ai bien compris que tu vas pouvoir recommencer tout ça. On va terminer par peut-être ta scène que tu redoutais le plus, ou celle qui est ta préférée au final peut-être, l'une ou l'autre.
Celle que je redoutais le plus, j'en ai déjà parlé, c'est clairement l'interaction entre l'ours et l'enfant, puisque l'ours, sans trop déflorer, l'ours est coincé dans des câbles dans la forêt, suite à une connerie qu'ont fait les deux méchants, et le petit Roman le libère de ces câbles, donc il doit physiquement enlever les câbles comme un collier qui sont autour de la tête du vrai ours. Donc celle-là, je la redoutais pour des raisons évidentes de mangeage d'enfants. Et au final, ça reste une scène à chaque fois que je la vois là, me touche beaucoup. Ouais.
On va accueillir Maxime Gasteuil et Gérard Jugnot dans un tout petit instant. Il n'y a pas de réseau, c'est le 6 août au cinéma, c'est le film de l'été à ne pas rater. En tout cas, mon cher Édouard, on est à tes côtés, on te dit à bientôt.
C'est gentil, merci du soutien maintes fois renouvelé.
À très vite, merci Édouard. Tout de suite la bande annonce et on revient juste après avec Maxime et Gérard. À tout de suite.
Pour les vacances. Suivez-moi!
Waouh! Il y a une tyrolienne géante! Papa, je pourrais en faire?
C'est hors de question, Jonas!
Mais moi, je vis des trucs de dingue avec personne pour me dire fais attention, gna gna gna!
C'était quoi ce bruit?
Oh, regarde, papou, on est recherché!
C'est bizarre, y a pas de réseau.
Y a pas de réseau?
Bah, effectivement, y a plus de réseau parce qu'on a fait péter l'antenne!
Et peut-être 3 kilos de trop.
C'est qui ces deux gros guignols?
Coucou, le drone! Mais
je suis pas coucou, il est en train de filmer!
Oh, viens, je te dis, faut qu'on bouge! Attends, je ramène mon drone!
Ben, s'en va! On va! Rattrape-le!
T'inquiète, je vais les choper!
Gabi! Jonas!
On va devoir se séparer.
Et c'est quoi du coup? Si les deux débiles viennent ici, on va bien les recevoir.
Comme dans Maman, j'ai raté l'avion.
Allez, spécial, il n'y a pas de réseau. On continue à en parler pour notre dernière de la saison. Maxime Gasteuil nous a rejoint, Gérard Junior, dans un instant. Bonjour Maxime.
Salut, on se quitte plus, nous.
Allez, on se quitte plus. Un an et demi, c'est ce qu'on disait avec Edouard il y a un instant. C'est fou d'arriver à faire deux films à sortir comme ça à 15 mois d'intervalle.
Ouais, surtout qu'on n'était pas du tout pressenti pour faire celui-ci et tout a été un alignement de planètes fabuleuse jusqu'à la présence de Gérard à mes côtés à l'affiche. C'était fou. Donc je suis très heureux.
Alors tu y joues père et fils avec Gérard Jugnot, ouais, qui font sauter une antenne relais et évidemment il n'y a plus de réseau et ils vont devoir faire, on va dire, main forte avec deux enfants qui vont leur mener une vie mais absolument infernal.
Ils vont nous donner un enfer. On se rend parce qu'on en plus on part en se disant ces deux gamins sont inoffensifs et en fait on découvre que le pire des gamins va être celui qui était inoffensif et va devenir vraiment une machine
de guerre.
Une machine de guerre en fait à détruire tout sur notre passage et ils vont finalement nous faire vivre et endurer des séquences hilarantes et assez comment je pourrais cartoon parce que vraiment ce film serait tiré d'une BD que ça serait normal pour moi parce que le storyboarder a fait un travail fabuleux, vous le verrez à la fin du film. Si ça avait été une BD adaptée, j'aurais été pas choqué du tout, j'aurais dit mais bien sûr c'est fait pour être au cinéma, donc je suis très heureux d'avoir joué dans un film pareil, parce que c'est une première pour moi, des cascades, la nature, l'aventure.
Petite coiffure hors du commun.
Ouais, on voulait de toute façon, et encore on a été cool, Edouard a été à freiner un peu le truc, parce que moi j'allais partir vraiment très loin, et ils ont pas voulu m'écouter, on a fait un truc un peu plus
soft.
Mais moi j'étais prêt à me teindre en orange, faire une raie au milieu, enfin.
Edouard.
Ce qui était compliqué pour la coiffure, c'est que en fait, tu l'y fais réellement, donc si tu vas trop loin, tu peux pas revenir en arrière, donc on était obligé de faire par étapes. On prenait des photos, on regardait, on dit donc on va encore aller un peu plus loin. Et au bout d'un moment, c'est d'y aller, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est pas simple de créer une coiffure de débile comme ça. Ouais, pas simple.
En combien de temps le tournage là pour le coup, Maxime?
Ça a duré un mois, un petit mois et demi.
35.
C'est ça qui est assez dingue parce qu'il y a un rythme absolument effréné, c'est dingue. Hein.
Ouais, c'est effréné et puis on a pris le temps. Edouard a fait une préparation fabuleuse. Il a storyboardé avec ce génie de storyboarder. Rappelle-moi son nom parce que c'est important d'en parler.
Michel Doré. Et on a fait une grosse prépa aussi avec mon chef opérateur, mon premier assistant, Julien Hirsch et Benjamin Blanc. On n'a rien lâché pour être sûr que ça tienne en 35 jours. Quoi.
On bossait comme des brutes. Il m'appelait le soir, il bossait tard au bureau. Et en fait, une préparation de film, quand elle est faite à ce degré-là de rigueur, ben, après sur le plateau, pour nous, c'est un confort fabuleux. Donc on a fait que s'amuser, être prêt physiquement et puis après jouer et s'éclater jusqu'à que Edouard ait ce qu'il veuille à l'écran.
T'es fan toi aussi de tout l'univers justement des Maman j'ai raté l'avion, enfin ouais. Toutes les références qui sont ouais. Faites dans le film, avoir un Bernard Farcy qui fait même un petit clin d'œil à Marseille, ouais. C'est juste dingue.
Non, on est content, on en a mis des refs un peu partout et puis moi j'ai grandi avec ces films-là et c'était une valeur commune avec Edouard Hirsch qui a fait l'opérateur sur ce film, les producteurs, on est tous partis dans cette direction de régaler les enfants et on s'en est beaucoup inspiré mais on a fait notre film à nous aussi et j'ai rarement vu un film comme ça en France. Pour les gamins, parce que là, on est vraiment dans un, on pourrait dire que c'est un Disney filmé, quoi. C'est vraiment un film entre Ace Ventura, Dumb and Dumber, Jurassic Park, Indiana Jones. On est à la fois dans l'humour, la comédie, l'aventure, le risque, la cascade. C'est effréné, c'est touchant. Il y a une belle histoire d'amour. Il y a deux enfants auxquels on a envie de s'attacher, les adopter à la fin du film. C'est trop bien, quoi.
Ta scène préférée?
Je dirais toute la scène, rocambolesque du moment où les gamins nous tendent tous ces pièges dans la maison jusqu'à notre sortie en fait avec la police quand ils, enfin je vous spoil pas le film mais jusqu'à la fin du film où il y a une suite fabuleuse de gags et de pièges qui nous ont tendus qui ne s'arrêtent pas que ce soit de mon côté ou de celui de Gérard. Pour moi c'est le meilleur moment du film.
Ça aide la scène justement d'en parler avec Edouard tout à l'heure pour avoir ce rythme, pour avoir pour aller peut-être plus rapide, être plus efficace encore quand on tourne,
oui,
ou pas.
C'est ce que dit Gérard, il y a une fréquence dans l'humour, on s'y reconnaît tous les gens qui touchent à l'humour de près ou de loin sur scène, au cinéma ou au théâtre. Ça aide pour le corps, je trouve. On sait se placer, on a moins peut-être aussi d'appréhension de la caméra parce que on parle au public, donc là je trouve ça beaucoup plus confortable face à la caméra que un public où on est souvent des gens très pudiques et finalement on fait un métier qui est à l'opposé de notre pudeur, mais la caméra, on est dans notre petite famille avec un réalisateur qui est d'une bienveillance sans nom parce que lui il veut qu'un truc, c'est que les gens soient heureux et de travailler pour lui et avec lui surtout. Donc on est dans nos petits chaussons, on connaît toute l'équipe et de jour en jour ben on performe ensemble pour donner le meilleur de nous-mêmes pour arriver à un résultat comme celui-ci aujourd'hui, donc c'est trop bien.
C'est un film à aller voir en famille. Ça sort le 6 août au cinéma. Ça s'appelle Il n'y a pas de réseau, justement, et partagé avec Gérard Jugnot.
Gérard Jugnot qui devait être avec nous là, mais justement, on n'a pas de réseau et il vient de se barrer pour passer un coup de fil à l'extérieur. Donc il aura raté cette interview.
On va réécouter un petit extrait d'Il n'y a pas de réseau et on essaye de récupérer Gérard 2-3 minutes avec nous.
J'ai jamais essayé. Oh, ça fait mal à la tête, les lions.
Bon, allez, on va les chercher.
Très grosse journée.
Mets ça.
Des truffes.
Je pencherais plutôt pour des crottes.
Des truffes.
Des crottes.
C'est pas des truffes.
Et voilà, on l'a récupéré, Gérard Jugnot qui était avec nous. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Gérard, vous avez déclaré quand j'ai vu le film au cinéma il y a plusieurs mois au Festival de Alpes d'Huez, je n'ai jamais fait un film aussi con, mais que ce que je me suis amusé.
Oui, mais c'est Edouard Pluvieux qui m'a présenté le film comme ça, donc je dis tiens, c'est intéressant. Et c'est vrai que les deux personnages, Maxime et moi, on est vraiment très très teubés, quoi.
Il vous a pas ménagé, hein, Edouard, là, dans les scènes, hein.
Oui, ils ont essayé d'en finir avec moi, mais je me suis cramponné.
Quel souvenir vous garderez en tout cas de ce tournage épique, si j'ai bien compris?
Je crois le truc le plus... En voyant le film, j'ai eu mal pour moi, alors que c'est des cascadeurs. Non, mais j'ai un souvenir assez agréable de... Je crois que c'est un des premiers jours de tournage où je tombe la tête dans des toilettes sèches. Et je veux dire que...
Qui ont été utilisées.
Mais c'était sympa parce que j'avais... Il m'avait mis de la... Évidemment, c'était du chocolat. Donc, j'ai un souvenir de chocolat très agréable.
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cascades. C'est un film qui est très rythmé. C'est vraiment un film à aller voir en famille. Il y en a pour les enfants. Quand vous avez pu faire justement quelques séances où il y avait en plus des jeunes, des enfants, quand on les entend rire comme ça... Fait ça pour ça, quelque part.
Bah oui, moi je veux dire que la plus grande récompense qu'on a, c'est les plus grands merci qu'on a, c'est les rires, quoi, les rires, les sourires. Moi je suis arrivé à un moment de ma vie plutôt sympathique, je me promène dans la rue, parfois il y a des gens un peu renfrognés, ils me voient, ils sourient, ou même je fais une connerie en voiture, et les mecs, et puis ils me sourient, donc je veux dire, le sourire c'est notre récompense, quoi.
Bon, j'ai l'impression, en tout cas, avec Didier Bondon, vous allez pouvoir former un club tous les deux, des comédiens à qui on ne lâche rien, à qui on en fait voir, à qui les réalisateurs vous en veulent, clairement.
C'est vrai que vous pensez au film de Philippe Lachaud, là, à Libby.com, là, Didier, il a morflé. Ouais. C'est assez rigolo, mais il y a ça, c'est le côté de Laurel Hardis. Dans Laurel Hardis, c'est toujours le rond, le gros qui en prenait plein la tronche, quoi. Hardy, il a morflé, hein, dans tous les films de Laurel Hardy.
Et on terminera par la rencontre avec Maxime Gasteuil.
Hélas.
Dis-le, Edouard.
Vous en prenez tous les deux, hein, dans le film, au même niveau. Hein.
Non, Maxime en prend plus que moi. Mais bon, il est plus résistant, il est jeune, c'est normal. Non, c'est une très belle rencontre. C'était une rencontre à la fois professionnelle et amicale.
Bon, en tout cas, moi je vous dis, c'est le film de l'été à ne pas rater. Merci beaucoup, Gérard.
Merci à vous.
Merci à toi.
Et à très bientôt, il n'y a pas de réseau. C'est le 6 août au cinéma. Merci les amis, à très bientôt. Ciao.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Voilà, Chute, on écoute la télé, c'est terminé en hebdo pour cette saison. On aura le plaisir de vous retrouver le lundi 1er septembre. Je vous donne dans une poignée de secondes tous les rendez-vous encore pour cette semaine, en tout cas de Chute, on écoute la télé.
Le rendez-vous des stars... C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands Jade et Ali, disponible dans vos rayons en grande surface.
pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.